Il est 18h à Niamey, le studio Kalangou vous propose le journal en français au micro Raïla Tsoumana. Au sommaire de cette édition, plus de 2000 agents contractuels des collectivités territoriales sont suspendus de leur poste par un arrêté du maire central, réaction du syndicat dans ce journal. Le président du comité national d'Agadez, Sokni, a annoncé hier lors d'une réunion que tout sera prêt à temps pour accueillir les festivités du 18 décembre. Vous l'entendrez au cours de cette édition. Le ministre de l'Éducation primaire a expliqué les raisons et les objectifs de la décision quant au transfert des compétences des enseignants contractuels aux communes. C'était lors d'un point de presse le jeudi. Enfin, les eaux du fleuve Niger montent progressivement en cette période de saison des pluies. L'autorité du bassin du Niger appelle les populations à la vigilance. C'est la partie magazine de ce soir. Bonsoir à tous. Environ 200 agents contractuels de la mairie ont été suspendus de leurs fonctions. Selon Moumouni Jubo, secrétaire général du syndicat national des agents contractuels des collectivités territoriales du Niger, la décision a été prise par arrêté du maire central le 2 août dernier. Pour l'heure, ces agents ignorent toujours les motifs de leur suspension. Quelle est la réaction du Centractène face à cette décision? La réponse du secrétaire général Moumouni Jubo.
Au Synacten, ce fut un coup de foudre lorsque nous avions appris que le maire central a signé une telle décision. Mais en réalité, il est écrit sur l'arrêté « suspension ». Maintenant, si c'est une suspension entre griffes ou suspension au sens large du terme, la question reste posée. Légalement, la mairie n'a pas le droit de suspendre leur contrat comme ça, et sans même les informer. Bon, nous nous sommes adressés d'abord à notre chef hiérarchique, qui se trouve être le DGRH. Lui nous a fait comprendre que quand ils ont posé la question au maire central, celui-ci a dit que la décision vient de là-haut. Nous, notre réaction a été immédiate. Nous avons jugé utile d'adresser une lettre d'information à notre confédération en joignant une copie de l'arrêté. La CNT n'a pas pu étudier le dossier pour le moment, mais nous comptons repartir à la CNT dès lundi en vue d'en savoir davantage.
Vous venez d'entendre le secrétaire général Moumouni Jubo de la Centractène sur la suspension des 2000 agents de la mairie. Dans un point de presse qu'il a animé jeudi, le ministre de l'Éducation primaire a expliqué les raisons et les objectifs de son dernier arrêté qui suscite des grincements de dents au sein des syndicats du domaine de l'éducation. Cet arrêté, je vous rappelle, transfère aux communes la gestion des personnels contractuels. Selon Daouda Mamadou Marté, son arrêté découle d'un décret signé en janvier 2016 et ratifié par plusieurs ministres.
C'est un décret qui a été signé en janvier 2016 et ratifié par plusieurs ministres. Je précise bien, l'État transfère les compétences et les ressources aux communes. Il ne s'agit pas, comme je l'ai entendu par certains dire, qu'on va affecter les enseignants contractuels aux communes et que c'est aux communes de les payer. Si je veux même de leur logique, est-ce que moi, ministre de l'enseignement primaire, j'ai le pouvoir de demander à une commune de payer mes enseignants? Non. Seul le conseil municipal a ce pouvoir-là. Cet article dit quoi? Il y a deux aspects. D'abord, du recrutement. Conformément à ce décret, cet arrêté est l'arrêté d'application de ces décrets. C'est un processus qui va se poursuivre. La commune est responsable du recrutement des enseignants contractuels dans leur zone de compétence. Ça signifie qu'à l'avenir, c'est à la commune qu'on va transférer le recrutement des contractuels. Aujourd'hui, d'ailleurs, les contractuels sont recrutés par nos inspecteurs au niveau des régionaux et au niveau du département pour le compte de la commune. Mais à l'avenir, les maires et nos inspecteurs seront là pour recruter ensemble les communes. C'est-à-dire que la responsabilité politique, c'est le maire, mais la responsabilité académique et professionnelle, c'est l'inspecteur.
Daouda Mamadou Marté, ministre de l'Éducation nationale, propos recueillis par nos confrères du groupe de presse Labari. Agadez Sokni se tiendra le 18 décembre prochain comme prévu. C'est la substance de l'intervention du président du comité de cette fête hier soir. Le ministre Rissa Agboula a auparavant visité tous les chantiers en cours avant de tenir une réunion de synthèse au gouvernorat de la région. Le président du comité demande aux populations d'Agadez de croire en la tenue de la fête du 18 décembre prochain. Le ministre Rissa Agboula, président du comité national d'Agadez-Sokni, au micro de notre correspondant Moussa Mamman.
Je voudrais dire aux gens d'Agadez d'abord et aux Nigériens dans leur ensemble sur le plan national qu'Agadez-Sokni est en marche. Les gens ils vont très vite en besogne en criant sur les réseaux sociaux, c'est un peu partout que Agadez-Sokni, c'est un rêve, Agadez-Sokni ne verra pas de jour. Mais Agadez-Sokni est déjà en marche. Vous avez vu les images et dans les 3 mois à venir, 2 choses seront faites à Agadez. Et la fête du 18 décembre sera célébrée dans de très bonnes conditions au niveau de la ville d'Agadez. Ce que nous avons vu des travaux qui ont commencé, je suis à ce stade satisfait du début des travaux, des stades actuels, car je suis satisfait de vous. Et des entreprises, je dis des entreprises que j'ai visitées, et des bureaux d'études et de contrôle qui sont là. Je serai présent, moi et mes collaborateurs. Je serai présent physiquement la plupart du temps. Nous avons ouvert ici notre bureau local ici et tous les matins vous allez me voir. Et la date butoir pour tout le monde, c'est le 30 novembre à minuit. Il faut que tous les chantiers qui rentrent dans le 18 décembre soient terminés.
C'était Rissa Agboula au micro de notre correspondant Moussa Mamman. À l'occasion de la fête du 3 août, le ministre de l'Environnement et du Développement rural, Wasalke Boukari, a évoqué une situation d'état d'urgence écologique. Alors, que faire devant une telle urgence? C'est la question que notre reporter Laurent Ibrahim Gado a posée au directeur général de l'Environnement et du Développement durable. Sani Mazou appelle à l'implication de la jeunesse dans ce combat de la lutte contre la dégradation des espaces verts.
Tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas de manière responsable. Maintenant, changeons la mentalité, nos comportements pour prendre la responsabilité tout entière de changer en faveur de l'environnement, en faveur de la restauration de l'environnement, en faveur de la conscientisation de nos populations, notamment la partie jeunesse, puisque nous travaillons pour nous-mêmes et nous travaillons pour les générations à venir.
Pourquoi cette particularité au niveau de la jeunesse, ça implique quoi?
Oui, mais puisque vous savez que la jeunesse, c'est d'abord l'avenir. Et c'est les grands de demain. Et c'est la jeunesse, les jeunes qui sont appelés demain à diriger le pays. Donc si réellement il n'y avait pas une prise de conscience responsable de cette jeunesse, mais croyez-moi qu'on a tout perdu. Donc on a intérêt à former les jeunes, à les encadrer, à leur faire savoir qu'actuellement les choses ne vont pas comme on le voulait, mais il faut qu'on change dans le sens positif pour que l'avenir soit meilleur.
Dans son message à la nation à l'occasion du 56e anniversaire de l'indépendance du Niger le 2 août dernier, le président de la République Issoufou Mahamadou a relevé l'inaccessibilité de l'Internet au débit à bon nombre de Nigériens. Selon le président de l'Association de défense des droits de consommateurs des technologies de l'information, de la communication et de l'énergie, Abdelaziz Mahmoudou Abbas, l'État doit d'abord penser à détaxer les outils pour favoriser la pénétration de l'Internet au Niger.
Le coût des TIC, pas seulement de l'Internet, le coût des TIC est vraiment très élevé et le taux de pénétration est vraiment insignifiant par rapport à toute la volonté des acteurs et au désir d'accéder aux outils TIC par rapport à tout ce que la population est en train de faire. Aujourd'hui, nous voyons que le taux de pénétration est vraiment très faible. Au Niger, tout ce qui est du domaine des TIC ne profite pas vraiment des avantages d'investissement ici au Niger. Quand vous prenez d'autres pays, ils ont enlevé toutes les taxes, ils ont facilité la pénétration des terminaux. Ils ont facilité la pénétration de l'outil, du support même des TIC. Voilà pourquoi dans d'autres pays, la pénétration a connu vraiment une avancée extraordinaire. Mais au Niger, vraiment, ce n'est pas le cas.
Est-ce que dans les jours à venir ou bien dans les mois à venir, on peut s'attendre à une révision à la baisse du coût de l'Internet au Niger?
Il sera vraiment très difficile parce que d'abord, quand vous prenez la guerre qui est entre les opérateurs et les autorités en charge des télécoms, qui nécessitent aujourd'hui de se retrouver autour d'une table afin de trouver une solution à ce problème de pose de fibre optique qui pose problème au niveau des consommateurs, des opérateurs et même du manque à gagner de l'État.
Propos recueillis par Mokhtar Hamadou. Une page cinéma dans ce journal. Projection ce soir en avant-première à 20h à Alternative Espace Citoyen du film La colère dans le vent. C'est un film d'une durée de 54 minutes qui parle de l'activité minière et de ses conséquences à Arlit, ville située au nord du Niger. La colère dans le vent est une réalisation d'Amina Ouera, une jeune cinéaste nigérienne. Amina Ouera s'explique sur le sens de ce film.
On sait tous ici au Niger que les populations plutôt d'Aglite et le Niger en entier ne profitent pas de ces activités minières. Parce qu'on s'est rendu compte que nos parents ont été bernés, si je peux le dire, parce que c'est des gens qui ont commencé à travailler dans les mines sans se rendre compte des conséquences, notamment toute cette pollution qui est en train d'envahir cette ville, qui est en train de s'agrandir. Ils n'avaient pas pensé aux conséquences, ils n'avaient pas demandé à savoir si cette activité pouvait être fatale pour leur santé ou pour la santé même de leurs enfants ou des habitants. Mais là, actuellement, comme il y a des jeunes qui sont en train de prendre la relève, généralement, c'est des jeunes qui ont étudié et qui se sont renseignés par rapport à l'activité minière. Et là, du coup, ils commencent à se révolter. Je suis née en fait à Arlit et j'ai grandi là-bas. Et en tant qu'habitante d'Arlit et en tant que cinéaste, moi, ma modeste contribution, c'est de faire un film d'auteur, d'impliquer toute la population d'Arlit et peut-être avoir nos droits pour pouvoir en fait profiter de cette activité, nous habitants et également tout le Niger.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.
La partie magazine de cette édition est consacrée à la montée des eaux du fleuve Niger en cette période hivernale. L'autorité du bassin du Niger en parle dans son bulletin de ce mois d'août. L'ABN parle d'une cote d'alerte jaune alors qu'il ne s'agit que des cours d'eau des alentours des régions de Tillabéri et Niamey. Les populations doivent être vigilantes dès à présent pour faire face à des probables inondations. C'est ce que conseille Bachir Al-Khali Tanimoun, hydrologue à l'autorité du bassin du Niger, joint ce matin au téléphone par Hamadou Moumouni.
À partir du 2 août, nous avons constaté une montée rapide des eaux du fleuve, due essentiellement, je dis bien, à cause de la pluviométrie enregistrée, surtout dans la région burkinabé, à savoir, c'est-à-dire sur les trois affluents, la Sirba, le Gourol et le Dargol. Effectivement, au niveau de ces trois grands affluents, nous enregistrons, c'est-à-dire une montée très, très nette du niveau des eaux. Et c'est ça qui a expliqué, c'est-à-dire la montée très rapide constatée au niveau de la région de Niamey.
Comparé à l'année passée, quelle est la situation?
L'année passée, la cote qui a été observée, c'est-à-dire la plus haute, la cote maximale, était de l'ordre de 550 cm. Cette année, déjà le 2 août, on a observé une cote de près de 547.
Vous parlez de cote d'alerte jaune, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est le niveau d'alerte. La cote d'alerte, c'est-à-dire là où on attire l'attention des riverains et des autorités pour essayer de se donner, de donner plus d'attention sur le suivi du niveau d'eau, c'est ce que ça veut dire. Donc, il y a un certain niveau du cours d'eau qui définit ce genre de niveau d'alerte. Maintenant, si on dit la cote d'alerte qui est de l'ordre de 530 au niveau de Niamey, c'est la cote à laquelle on attire une première attention, à savoir, c'est-à-dire on doit donner une vigilance sur le niveau du fleuve.
On peut craindre des conséquences graves, comme par exemple des inondations.
Et partant de la dissimulation de la prévision saisonnière qu'on a faite, effectivement, nous allons nous attendre à des importantes pluies. Et au vu de la situation actuelle du cours d'eau, à savoir, c'est-à-dire les hauteurs qui sont enregistrées à ce moment, vraiment si la situation pluviométrique continue, effectivement, nous allons faire face à des situations alarmantes.
Quels sont les conseils que la BN entend donner à tous les acteurs qui sont concernés par la montée des eaux?
Le conseil que nous pouvons donner, surtout, va aux riverains, ceux qui pratiquent la riziculture, ceux qui vivent les cours d'eau, vraiment d'essayer de chercher d'autres points, c'est-à-dire d'être d'autres sites pour être à l'abri. Et également, pour ce qui concerne les gens qui pratiquent des activités maraîchères et des cultures de riz, il faudrait qu'ils prennent vraiment des mesures pour essayer de préserver ce qu'ils peuvent.
Et c'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain à 18h. Au revoir.